Seigneur, nous voulons te prier, oui, encore pour ces instants, pour que ta grâce, ta merveilleuse grâce, soit sur Gavin maintenant. Tu as déposé dans son cœur des pensées pour nous, pour chacun, et que ces pensées puissent pénétrer nos cœurs et nous donner d'avancer avec toi, de te connaître, de te reconnaître et de vivre cette semaine avec un nouvel élan vers toi, Seigneur. Bénis particulièrement Gavin, Seigneur. Amen.
Bonjour tout le monde. Donc avec ma merveilleuse épouse Marraine, on est vraiment content d'être là. C'est toujours une joie de venir dans cette église revoir nos frères et sœurs qui viennent un peu de partout et c'est tellement génial de voir à quel point Dieu peut toucher, travailler les cœurs de toute l'humanité. Et vraiment, on vous aime très 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 fort. Même les gens de Toulouse. D'accord ? Et ça, c'est que Dieu a beaucoup travaillé mon cœur. Je vous invite à prendre dans vos bibles Matthieu 7. Matthieu 7, et pendant que vous prenez Matthieu 7, je voudrais juste dire aux responsables de l'église, vous êtes un peu plantés. Hein. Parce que comme vous m'avez demandé il y a quelques semaines de prêcher là-dessus, je suis pas prof de maths, d'accord ? Je suis prof d'histoire. Et ce texte, il m'a fait beaucoup penser un peu à une énigme mathématique. Et vous allez voir un petit peu pourquoi. Je l'ai intitulé une mathématique binaire. Vous allez voir, on va un peu jouer au ping-pong durant ce passage, et cette énigme mathématique, les hommes, depuis des millénaires, ils essaient de trouver une réponse par plein de moyens différents, mais la seule réponse, ça a été répétée encore ce matin, c'est Christ. Et on va voir un petit peu comment. Ce passage, c'est la conclusion de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, où Jésus était entouré d'une grande foule. Et il les a invités à s'approcher de lui, il est monté en hauteur pour que tout le monde le voit, il s'est assis et il a commencé à enseigner, à raconter plein de choses absolument merveilleuses. Beaucoup de gens ont réfléchi sur ce sermon. Et certains, comme par exemple saint Augustin, ont pu déclarer « Celui qui voudra méditer avec piété et sobriété le sermon que notre Seigneur a prononcé sur la montagne, il trouvera, je pense, le modèle parfait de la vie. » Le sermon sur la montagne, c'est un texte qui est extrêmement connu. Beaucoup de gens vous diront « Waouh, c'est une super philosophie !» D'autres vont vous dire « Waouh, c'est un texte historique puissant !» Pour nous, enfants de Dieu, qui suivons Christ, c'est beaucoup plus que tout ça. C'est la valeur fondamentale de notre vie de tous les jours. Ce texte fait partie de ce qu'on appelle le premier discours du livre de Matthieu. Et le thème de ce discours, c'est Jésus qui parle, c'est l'autorité. Il arrive et il montre qu'il peut parler lui seul avec une autorité forte et puissante. Dans ce passage du sermon, on va voir, et on a vu, et vous avez vu les différentes semaines précédentes, à quel point Dieu a une pédagogie parfaite, parce qu'il est pleinement inspiré par son Père. Pardon, Jésus a une pédagogie parfaite, parce qu'il est pleinement inspiré par son Père, Dieu. Le passage qu'on va étudier à la fin de Matthieu 7, c'est un petit peu la conclusion, le bilan du sermon sur la montagne. Et vous allez voir, cette conclusion, ce bilan, c'est un petit peu un appel. Ce que je vous propose ce matin, c'est pendant quelques minutes, je vais vous poser 5 questions. Et je les pose à moi aussi. Et je peux vous garantir que quand j'ai préparé ce message, j'ai été extrêmement travaillé par rapport aux réponses que moi-même je donnais et que je creusais au travers de la parole. Cette foi authentique, ce salut qui est proposé par Christ, il révèle plein de choses par rapport à notre cœur. Et vous allez voir, on va parler de certaines choses qui vont peut-être vous travailler, qui peut-être vont vous choquer par moments. Peut-être vous allez dire, oh là là, il exagère, il ne devrait pas dire ça. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le message dont je vais vous parler ce matin, c'est un message d'espérance, c'est un message d'espoir. C'est un message d'amour, c'est un message fort et c'est un message juste. Cette semaine, j'ai reçu plein de mails de la part de mes terminales. Je suis leur prof principal et ils commencent à être ultra stressés par rapport au bac qui commence jeudi. Et ils me posent plein de questions. Et c'est souvent les bons élèves qui posent des questions. Et là, ce que je vous propose, c'est passer, alors pas un examen, parce que c'est bien plus important qu'un examen, c'est faire un bilan de là où chacun, personnellement, on est par rapport à ce que la Bible enseigne. Que ce soit la première fois que vous entendiez la parole, ou la 3000e fois, peu importe, mais que vraiment on puisse se concentrer, mais où j'en suis ? On va lire plusieurs versets, et c'est Jésus qui parle, donc c'est lui qui a seul l'autorité, c'est lui le plus important, et vraiment qu'on puisse se dire, mais où j'en suis ? C'est pas un examen pour avoir une bonne note. C'est pas un examen où on peut se comparer aux autres. Ah, moi, je suis mieux qu'elle, je suis mieux que lui, oh, je suis pas dans cet état-là. Non. C'est un examen ou un test où on s'examine au plus profond de nous-mêmes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, au fond de nous-mêmes, par rapport à Dieu ? Pourquoi je suis sur terre ? C'est ce type de question qu'on va pouvoir se poser. Vous savez ce que c'est qu'un manga ? C'est une bande dessinée japonaise où on commence par la fin. Ben, je suis désolé, mais on va faire un petit manga. On va commencer par les deux derniers versets. Donc, je vous propose de prendre Matthieu 7 et les versets 28 et 29. Donc, encore une fois, c'est la conclusion du sermon sur la montagne. C'est les derniers mots de Jésus. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement. Car il enseignait avec autorité, et non comme les spécialistes de la loi. L'autorité. Est-ce qu'on arrive à faire confiance aux autorités qu'on a jour après jour, soit au travail, dans la famille, mais surtout par rapport à l'autorité divine, celle qui vient de Dieu ? Je ne sais pas pour vous, mais j'ai un cœur qui est extrêmement tortueux et compliqué. Même moi, des fois, j'arrive pas à le comprendre. Et je suis très enclin à partir du côté obscur. Et heureusement que mon chirurgien cardiaque, c'est Dieu, qui peut me montrer et m'éclairer certaines choses. Dans la version grecque de la parole, le mot « autorité » se traduit par « ekplesso ». Alors, pas « expresso », hein, « ekplesso ». Et « ekplesso », pardon, « ekplesso », c'est par rapport à autre chose, je me suis trompé. L'autorité, c'est exousia. Et exousia, ça veut dire puissance et pouvoir. Souvent, surtout pour un pays comme la France, quand on parle d'autorité, on se dit, oulala, non, encore ça. On a du mal à se soumettre. On a du mal à accepter d'avoir, à recevoir des ordres. Mais quand ces ordres viennent de quelqu'un qui nous a créés, qui nous connaît au plus profond de nous-mêmes, ça change absolument tout. Dans ces versets, on peut lire que la foule fut frappée de sa doctrine, de ce que Jésus enseignait. C'est là que vient le mot « ekplesso ». Frappé, ça veut dire « abasourdi ». Les bras m'en tombent. Vous connaissez cette expression ? On est là, mais waouh ! Mais c'est un truc de fou, comme diraient les jeunes. Mais qu'est-ce qu'il nous dit là ? Mais c'est incroyable ! Le danger de tout ça, c'est qu'on peut être ébahi par ce que Jésus dit, et vous allez voir tout à l'heure quand on va lire le passage, on peut être ébahi sans croire. On peut être étonné, surpris, touché, mais sans obéissance. Et on verra que dans ce passage, il y a un choix qu'on doit tous faire. Certains l'ont déjà fait, c'était rappelé par François tout à l'heure, et certains peut-être l'ont pas fait, je ne sais pas, je ne vous connais pas, et je vous parle à chacun d'entre vous avec un grand amour. Je vous aime tous, d'accord ? C'est vraiment important que je vous le rappelle. Vous connaissez peut-être C.S. Lewis ? L'auteur de Narnia, c'est un auteur incroyable. Quand il était petit, il avait des gros problèmes de dents, il avait des rages de dents très puissantes. Et il le savait, que le seul moyen de régler ce problème, c'est d'aller chez le dentiste. Mais il avait peur d'aller chez le dentiste, parce qu'il savait que ça pouvait lui faire un petit peu mal. Donc qu'est-ce qu'il faisait ? Tous les soirs, pour dormir, il allait voir sa maman, et à lui donner des petits cachets pour calmer la douleur. Mais tous les soirs, il devait recommencer. Et un jour, il s'est dit, allez, il faut que je me plie, et je vais aller voir le dentiste. Il allait chez le dentiste, alors oui, ça lui a fait mal, mais il a été guéri. L'autorité du dentiste pour s'occuper des dents, c'est tellement important. Quelle est notre autorité dans notre vie ? Quand on a un problème, est-ce qu'on va voir des gens ou nous-mêmes, on réfléchit juste par nous-mêmes en se disant « Ouais, je connais, je sais, je vais le faire. » Ou est-ce qu'on va voir la source, celui qui nous a créé, Dieu ? Et le premier point par rapport à ces deux derniers versets, c'est quelle est notre autorité? Eh bien, je vais vous donner la réponse, c'est Christ. Christ est notre seule autorité. Deuxième question qu'on va se poser. On va revenir au début du passage, au verset 13 et 14. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Dans les deux chapitres précédents, Dieu nous a présenté son royaume. Et là, il commence par nous donner un ordre, entrer par la porte étroite. Cet ordre, c'est pour nous inviter à devenir citoyens de ce royaume, citoyens des cieux, être un disciple de Christ. Ce qu'on vit sur terre, c'est un investissement pour ce qui va se passer après notre mort. Ce qu'on vit sur terre, c'est un investissement pour ce qui va se passer après notre mort. Et cet investissement est essentiel. Parce que comme le dit ce passage, il y a deux possibilités. Soit vous êtes passé par la porte étroite, c'est-à-dire Christ, et vous êtes sur le chemin étroit. Soit vous êtes sur la porte large, et vous êtes sur le chemin large. Alors qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire ça? La porte étroite signifie très souvent qu'on doit y aller seul. Avec notre péché et face à Dieu. Cette porte étroite, c'est la porte un petit peu du renoncement. Seigneur, le problème le plus important dans ma vie, c'est mon péché. La solution, je peux tout développer, je peux faire tout ce que je peux, tout ce que je veux, ça ne réglera rien. La solution, c'est croire que tu es venu sur terre pour mourir pour mes péchés, que tu es ressuscité, que tu as vaincu la mort, que tu es remonté auprès de ton Père et que tu nous as envoyé ton esprit pour vivre en nous aujourd'hui. Cette porte étroite, c'est aussi la porte de la repentance. Quand on passe par cette porte, on reconnaît notre péché et on réagit plus pareil par rapport au péché. À chaque fois qu'on pêche, on se dit « Oh Seigneur, je sais que c'est pas bien ça. » Et l'esprit dans notre cœur, il nous travaille. Cette porte étroite, c'est Christ. Et c'est un accès qui est difficile. Alors pourquoi c'est difficile? En grande partie à cause de nous. Parce qu'à côté, vous avez la porte large. Et la porte large, elle est vraiment facile. On peut rentrer avec sa famille, avec ses traditions, avec son passé, avec ses passions, avec ses idoles. Moi, j'imagine toujours une porte vraiment tellement large qu'on peut rentrer avec sa maison. Seigneur, c'est bon, j'ai ma maison et j'y vais. Non, les biens matériels, au bout du compte, ils servent à rien. Cette porte large, on peut y aller avec son péché. On ne dépose pas le péché à l'entrée. Cette porte large, elle est tellement simple que quand on la passe, on est fier. Et la fierté, c'est un des plus grands pièges face au péché. La fierté, c'est « j'ai pas besoin de Dieu, je m'en sors, j'ai une vie correcte, je fais quelques erreurs, mais comme tout le monde. » Une fois qu'on a passé la porte, on arrive sur le chemin. Et encore une fois, soit le chemin il est étroit, soit le chemin il est large. Et vous rappelez le titre au début, mathématiques binaires. Soit l'un, soit l'autre, soit l'un, soit l'autre. Le chemin étroit. Si on prend les termes grecs, encore une fois, c'est le terme sténos. Sténos, ça veut dire gémir. C'est-à-dire que quand on est sur ce chemin étroit, on gémit. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un message d'espérance. Eh bien oui, c'est un message d'espérance. Parce qu'on peut gémir extérieurement par rapport aux épreuves, par rapport à tout ce qui nous arrive, mais quand on est sur le chemin étroit, on est du bon côté. Malgré les épreuves, où on peut gémir, Christ est notre paix, et notre soutien, et notre sauveur, et notre refuge. Le chemin large, encore une fois, le péché est toléré. La parole de Dieu, on peut en parler, de temps en temps, mais elle n'est pas étudiée, elle n'est pas approfondie, elle n'est pas appliquée. On a chanté un chant tout à l'heure, un si grand miracle. Sur les chemins où il s'égare. Le chemin étroit, il est tellement étroit qu'il n'y a qu'un seul chemin. Il y a des passages tellement compliqués, il n'y a que Christ qui peut y passer et il peut nous porter et nous amener. Le chemin large, il est tellement large qu'on peut même dire qu'il y a plusieurs chemins. Parce qu'il y a ceux qui ne croient pas du tout, ceux qui se disent peut-être je verrai un jour, et où on est. Lorsque Jésus dit « entrez » au verset 13, Ce qui est important avec ce verset, c'est que cet ordre exige une réponse. Et s'il vous plaît, ne sortez pas aujourd'hui sans avoir répondu à cette question. Et si vous y avez déjà répondu, même il y a 60 ans, dites-vous, bon maintenant, ok, je sais que je suis passé par cette porte, mais Seigneur, aide-moi à marcher sur le chemin étroit, parce qu'on verra tout à l'heure que des fois on peut être freiné sur le chemin étroit. Parmi nous, il y a trois types de personnes dans cette salle. Il y a ceux qui disent oui, Seigneur Jésus, je veux passer par le chemin étroit. Il y a ceux qui disent non, ça ne m'intéresse pas, j'y ai jamais trop pensé, ou alors c'est bon, je gère ma vie comme je veux. Et il y a ceux, et attention à cela, ceux qui disent oh, je verrai plus tard, c'est bon, oh, je ferai mon choix plus tard. Retenez tous que lorsqu'on ne fait pas de choix, en fait on fait un choix. Lorsqu'on ne fait pas de choix, on dit non. Alors nous on se convainc que c'est un non temporaire, mais c'est un non quand même. Christ, lorsqu'il nous demande d'entrer par lui, au travers de lui, on n'a rien à faire, sauf lui faire confiance. C'est lui qui nous tend la main, c'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous accueille. Et cet appel, il est tellement radical que lorsqu'on est sur le chemin étroit, on verra dans 2 minutes qu'il y a des choses qui changent dans nos vies. Cette autorité autour de Christ, elle implique un deuxième mot-clé. C'est le deuxième mot-clé par rapport à ce passage, c'est la seigneurie de Christ dans notre vie. Si on reconnaît Christ comme notre Seigneur, il faut tout lui confier, tous les aspects de nos vies. Alors, si je suis là devant vous, c'est pas parce que je sais le faire, pas du tout. Je galère énormément, mais c'est un élément qui est tellement important. Versets 15 à 20, troisième point. Troisième question, après, qui est notre autorité? Où sommes-nous? Chemin étroit, chemin large. Où en sommes-nous? Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Jésus, dans ces versets, nous donne un avertissement. Méfiez-vous des faux prophètes ou gardez-vous des faux prophètes. Les faux prophètes, dans beaucoup de commentaires que j'ai lus ces derniers jours, ils ont plusieurs caractéristiques. Déjà, ils ont tort. Ils se trompent. Ils ont tort. Ils sont manipulateurs. Ils sont menteurs. Ensuite, ils sont pervertis. Ils n'ont pas la bonne image de qui est Dieu. Ils n'ont pas la bonne image de qui est Christ. Troisième aspect, ils sont dangereux. Parce qu'ils peuvent influencer. Et parce qu'ils peuvent, au final, tuer. Et quatrième aspect, comme on peut le voir ici, ils se déguisent. Je ne sais pas si vous avez déjà croisé un faux prophète. Ça peut arriver, malheureusement. Mais ce dont je voudrais parler ce matin, c'est que vous avez des faux prophètes qui sont visibles à 10 kilomètres. Quoique, ça dépend. Et vous avez des faux prophètes, c'est une autre catégorie. C'est un autre niveau, entre guillemets. Et le problème, c'est que des fois, ces deuxième catégorie de faux prophètes, ils peuvent nous influencer sur des choses un peu banales de notre vie spirituelle, mais qui, au final, vont nous freiner si on est sur le chemin étroit. D'accord? Et si on est sur le chemin large, ils vont encore plus nous détourner sur le chemin large. Est-ce que vous connaissez cet animal? Je crois que c'est un blenny, ou une blenny, je ne sais même plus, c'est masculin ou féminin, mais à bande bleue. C'est un animal qui arrive à se déguiser sous l'eau. C'est un poisson qui se déguise et qui va vivre en se déguisant avec les communautés avec lesquelles il se déguise. Et tôt ou tard, il les mange tous. Un faux prophète, c'est ça qu'il fait. Il se déguise, il arrive, il peut très bien parler, il peut être très bien devant tout le monde, avec tout le monde, mais au fond de lui, il est mort. Il est complètement mort. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur, Jim Jones. J'ai pris l'exemple le plus caricatural possible. C'est un monsieur qui a lu la Bible quand il était petit, s'est déclaré chrétien, et je vais vous donner ses premières théories sur la vie. Il était pour l'égalité raciale. Aux États-Unis, années 70-70, c'était quelque chose de très important, et il y avait beaucoup de luttes par rapport à ça. Égalité raciale, pour la justice sociale. Et en plus, il avait un projet agricole ultra-communiste, pensez à la guerre froide, donc il y a beaucoup de gens qui l'ont suivi. Il a écrit un livre qui reprend la première partie de 2 Corinthiens 3, verset 6, « La lettre tue ». Et la deuxième partie, c'est « Mais l'esprit vivifie ». Et dans ce livre, il a repris plusieurs passages de la Bible, il a dit « Voilà, ces passages-là, ils sont vrais, ces passages-là, ils sont faux. Et moi, Jim Jones, j'ai la bonne réponse. » Il y a eu des condamnations qui ont été faites pour dire « Ce monsieur est un faux prophète ». Mais il y a des gens qui ont dit « Ah non, mais c'est trop bien son projet, l'égalité raciale, il veut créer un nouveau monde. » Et comme il était refusé aux États-Unis, il est parti en Guyane. Et il a créé un centre où il accueillait plein de gens. Et quelques années après, il a fait un suicide collectif. 1000 morts. D'accord ? Ça, c'est, on va dire, le stéréotype du faux prophète qu'on peut croiser ou entendre. Et les amis, je vous garantis que sur Internet, il y en a des milliers. Dans les librairies même chrétiennes, il y en a. Donc à chaque fois, la seule autorité, c'est Christ et la parole de Dieu. Trois types de faux prophètes. Vous avez les hérétiques, ceux qui rejettent la parole de Dieu. Oh non, c'est faux. Vous avez ce qu'on appelle les apostats, ceux qui étaient apparemment une fois dans leur vie ou quelque temps sur le chemin étroit, mais qui sont tellement éloignés qu'il y a quelque chose qui dit « Ouh, peut-être qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de rencontre avec Christ, ils ne sont pas vraiment entrés par la porte étroite. » Rappelez-vous une chose, le salut ne se perd pas. Quand vous passez par la porte étroite, c'est définitif. La grande force du diable, c'est de faire croire à certaines personnes qui sont passées par la porte étroite, alors qu'ils sont sur le chemin large. Et troisième catégorie, après les hérétiques, les apostats, c'est ce qu'on appelle les trompeurs. Et le problème des trompeurs, c'est ceux qui se déguisent. Ce sont ceux qui parlent très bien, qui écrivent des livres des fois. Et ceux-là, ils sont beaucoup plus compliqués à trouver. Vous avez un proverbe, je crois que c'est un proverbe syrien, qui dit que lorsque vous voyez les dents d'un tigre, n'essayez pas de vous convaincre qu'il est en train de sourire. D'accord ? Face à tout ça, ces faux prophètes qui peuvent nous influencer, le chrétien peut changer certains aspects de sa foi chrétienne, certaines choses de sa vie de tous les jours. Et je vais vous donner deux exemples. Ce qu'on appelle le chrétien compromis. Le chrétien compromis, c'est le chrétien qui a rendu les armes. C'est je suis passé par la porte étroite, mais maintenant j'ai envie de vivre comme le monde me le propose. Le chrétien compromis, c'est celui qui va relativiser, qui va nier son péché, qui va se justifier. Dieu comprend, il est amour, il y a la grâce. Ah oui, heureusement, sinon on ne serait pas là. Mais n'oubliez pas ce que je disais tout à l'heure, Dieu est amour, mais Dieu est juste. Autre aspect, c'est ce qu'on appelle le chrétien tout confort. Je suis Christ depuis longtemps, je suis un modèle. Je n'ai pas d'engagement fixe, sauf là où je m'éclate vraiment. Par contre, surtout, personne ne doit me dire ce que je dois faire. Personne ne doit contrôler ma vie, qu'il soit humain ou qu'il soit divin. Dans ce passage, on peut voir à deux moments, vous les reconnaîtrez, ces faux prophètes, à leurs fruits. Par rapport à ces fruits, on va juste lire un autre passage dans 2 Pierre. C'est la suite, exactement la suite de la présidence des versets qu'a donné François tout à l'heure. Donc 2 Pierre 1, et c'est les versets 5 à 8. Lorsqu'on est passé par la porte étroite, qu'on est sur le chemin étroit, ça n'enlèvera pas les épreuves, ça n'enlèvera pas les problèmes de la vie. Par contre, Christ est notre autorité, Christ est notre Seigneur, et on va le voir là, Christ est notre modèle. Et notre attitude face aux problèmes, notre attitude face aux épreuves, face à la vie, elle change. Elle est transformée intérieurement par Christ. Et je vous donne un exemple de ce qu'on appelle les bons fruits. Si vous voulez relire Jean 15, en parle aussi les bons fruits. 2 Pierre 1, les versets 5 à 8. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Dans 1 Thessaloniciens 5, on peut lire que l'Esprit de Dieu en nous peut être éteint par rapport à ce qu'on choisit dans la vie, par rapport à ce qu'on écoute. Et il peut être tellement éteint qu'on peut être des fois arrêté sur le chemin étroit. Et la seule source qui va raviver tout ça, encore une fois, c'est notre relation avec Dieu par son Esprit au travers d'une seule personne, Christ. Christ est notre autorité. Christ est notre Seigneur. Et Christ est aussi notre modèle. Attention aux faux prophètes. Quatrième aspect, quatrième question. Où allons-nous ? On va lire les versets 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ces versets font partie des versets les plus graves, les plus forts de la Bible. Certaines personnes, à la fin des temps, devant le tribunal de Dieu, seront persuadées d'avoir suivi Christ. Ils auront peut-être même accompli, comme on le voit, des miracles. Jim Jones, vous vous rappelez, le faux prophète, il accomplissait des miracles, apparemment, des guérisons. Lorsqu'un faux prophète accomplit des miracles, a un certain, entre guillemets, pouvoir, il y a trois possibilités. Soit c'est Dieu qui lui donne un certain pouvoir à un moment donné, et on le voit ça dans la Bible, notamment à l'exemple du prophète Balaam, dans Exode, Lévitique et Nombre. Soit c'est par le pouvoir de Satan. Si vous relisez le début de Actes 19, les fils de Sceva, un chef juif, ils faisaient des exorcismes. Et un jour, ils sont arrivés devant un malade qui était possédé. Ils ont demandé au démon de sortir. Et le démon a dit « Je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, je ne vous connais pas. » Il les a attaqués, le démon. Et il paraît, c'est après la Bible, ses 7 fils sont sortis de la pièce tout nus. Donc le diable peut avoir un certain pouvoir. Et troisième possibilité, et il y en a beaucoup, c'est que du bluff. Vous avez des campagnes qui se passent tous les ans, des gens qui se disent chrétiens, et vous avez du bluff. Et notamment, vous avez des oreillettes entre la personne qui est sur scène et tous ces secrétaires qui accueillent les gens qui sont malades. Et lorsqu'ils arrivent sur scène, on dit dans l'oreillette, ce monsieur est venu me voir, il a mal à tel endroit. Donc la personne dans l'oreillette dit, vous avez mal à tel endroit. Oh, waouh, comment il sait ? C'est incroyable. Mais là où Dieu est incroyable, c'est que Dieu est capable de guérir. Et vous avez des vraies personnes qui accomplissent des miracles. Lorsque Jésus dit « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Si un jour, on va dans un zoo, et on va à l'enclos, où il y a beaucoup d'enfants qui seront devant l'enclos avec les agneaux. Vous savez, les petits agneaux, c'est trop mignon. Et puis, un agneau qui vient et puis qui commence à nous lécher la main. On dit « Oh, il est trop mignon !» Si par contre on va dans l'enclos des lions, et que le lion il vient et il rugit, je pense qu'on ne sera pas « Oh, il est mignon !» Non, on sera à genoux et on sera paniqué. N'oublions pas que Jésus, il est décrit comme un agneau, mais comme un lion. Et le lion, c'est un animal qui est ultra majestueux, qui est puissant, qui est fort. Lorsqu'il dit « Je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » L'iniquité, c'est être péché. C'est plus fort qu'être pécheur, c'est être péché. Avoir été rebelle toute sa vie contre Dieu. Il n'y aura plus de négociation. Il n'y aura plus de « Ah, c'est bon, ok, mais maintenant je me repens. » Non, c'est trop tard. Tu es devant le tribunal de Dieu, c'est trop tard. Dernière partie, en guise de conclusion, les versets 24 à 27. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, ressemblera à un fou ou un insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Les deux mots qui me marquent tout de suite au verset 24 sont les mots qui entend les paroles que je dis et qui les met en pratique. Quelques livres plus loin dans la Bible, dans le livre de Jacques, on peut lire que la foi sans les œuvres est morte. Encore une fois, on n'est pas sauvé par les œuvres qu'on accomplit. On est sauvé par la foi, par la grâce seule. Et lorsqu'on accepte Christ, lorsqu'on entre par la porte, que c'est notre autorité, c'est notre Seigneur, c'est notre modèle, c'est notre Sauveur, les fruits arrivent. On est transformé, on est travaillé et on change. Dans notre relation avec Dieu et aussi dans notre contact avec nos frères et sœurs, avec les gens qui nous entourent. Si j'étais en classe avec mes élèves, j'aurais pu élever la voix pour qu'ils m'écoutent. Ce qui est intéressant, c'est que dans la tradition juive, on n'élève quasiment jamais la voix. Pour insister sur quelque chose, vous savez ce qu'on fait ? Pour être sûr que les gens écoutent, on répète. Et depuis tout à l'heure, en fait, je vous ai raconté tout le temps la même chose. Vous vous rappelez la dichotomie, ce que j'ai dit tout à l'heure, la mathématique binaire, soit l'un, soit l'autre, soit l'un, soit l'autre. Deux portes, deux chemins, deux branches, deux animaux, deux arbres, deux types de fruits, deux types de personnes. Seigneur, Seigneur, deux destinations, le paradis, l'enfer. Et là, dans ce passage, deux maisons, mais surtout, deux fondations. Soit on est sur le roc. Le roc, c'est une vie d'obéissance. C'est une vie où on comprend, on accepte que Christ seul a autorité. Le roc, c'est une transformation intérieure, plus forte que les aspects extérieurs. Le roc, c'est demeurer en Christ, c'est lui obéir, c'est renoncer à soi-même, c'est faire le vide de soi-même et d'être de plus en plus rempli par lui. Le roc, c'est être triste face au péché, avoir une nouvelle réaction face au péché. Le roc est fondé sur l'obéissance à la parole de Dieu, à la Bible. Le roc, c'est aussi là où les connaissances qu'on a sur Dieu se transforme en connaissance de Dieu. Vous voyez la différence ? On peut connaître plein de choses sur Dieu. Le diable, les démons connaissent plein de choses sur Dieu. Ils reconnaissent plein de choses sur Dieu. Mais ils n'ont aucune relation, aucune connaissance. À la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, vous avez des camps de réfugiés qu'on appelle des camps de réfugiés Pashtuns. C'est la tribu qui est à la frontière, en gros, pour ceux qui connaissent, les talibans. Et dans ces camps, vous avez des personnes qui ont des rêves, des visions, et qui voit Christ, et qui entre par la porte étroite, qui se retrouve sur le chemin étroit. Et vous avez beaucoup de femmes, notamment, qui ont des visions et qui viennent à Christ, sauf qu'ils n'ont pas de Bible. Ils sont entourés de musulmans. Et rien que le fait de dire, bah, j'ai vu Issa, ce qu'ils appellent Issa dans le Coran, ils peuvent se faire tuer sur le champ. Et notamment, les talibans, les terroristes qui vont dans ces camps, ils ont une cible, les enfants. Et comme par hasard, le diable, il va cibler les enfants des mamans qui se sont converties, qui sont venues à Christ. Et je vous donne un exemple, un témoignage poignant. Et cette dame le disait en pleurant. Donc une maman afghane qui a plusieurs enfants, qui sont adolescents et qui sont pris par les talibans. Elle est incapable de leur parler de sa foi. Et lorsqu'on lui a demandé, mais madame, si vous parlez de votre foi à vos enfants, qu'est-ce qui va vous arriver? Ils vont me tuer sur le champ. Vos enfants vont vous tuer. Ah oui, et ils vont me tuer salement. Et écoutez ce qu'elle a dit. Vous savez, ce que je crains le plus, c'est que mes enfants meurent sans connaître Christ, plutôt qu'ils me tuent parce que j'appartiens à Christ. Quand vous êtes capable de dire ça, je peux vous garantir que vous êtes fondé sur le roc. Vous avez une profondeur, une sincérité et une intimité que personne ne peut vous enlever. Parce que vous êtes à proximité du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Deuxième fondation, le sable. Le sable est constitué des attitudes pécheresses humaines. L'autosatisfaction, je me suffis à moi-même, j'ai pas besoin de Dieu. Ou sauf peut-être là, mais je prie de temps en temps, mais c'est tout. Est-ce que vous savez ce que c'est à droite? Alors ceux qui ont été à l'armée ou dans la police, peut-être ça vous rappelle des mauvais souvenirs. Ce qu'on appelle un tube à sable. Lorsque vous arrivez le matin et quand vous repartez le soir, vous devez passer par le tube à sable. On vous donne votre arme et c'est là que vous chargez votre arme pour partir en mission. Comme ça, si jamais le coup y part, ça arrive, mais rarement, eh ben ça va dans le sable. Et vous savez que le sable, ça a quand même une certaine force, hein. Et bien là où le diable est fort, c'est qu'il nous fait croire que le sable, c'est beaucoup plus solide que le roc. Je l'ai fait, hein. Je me suis fait gronder, je crois d'ailleurs. J'avais pris le tube à sable, j'avais renversé. D'accord? Vous mettez du sable par terre, ça vaut rien. Donc n'oublions pas que le roc est infiniment plus solide que le sable. Le sable, malheureusement, lorsqu'on construit notre vie sur le sable, donc loin de Dieu, encore une fois, on peut croire qu'on est proche de Dieu, parce qu'on peut construire une super maison. L'important, là, c'est pas la maison, c'est la fondation. Si vous connaissez ce monsieur, Richard Branson, c'est un grand multimilliardaire, grand patron, très très apprécié. Il a acheté une île dans les Caraïbes. Il s'est dit, tant qu'à faire, autant prendre l'île. Et il a construit une villa, mais splendide. Il fait des reportages, il invite des stars pour venir le voir. Et il y a 3 ou 4 ans, il y a eu une tempête tropicale, Irène, elle s'appelait, qui a complètement détruit sa maison. Il n'y a pas eu de victime, mais il a complètement détruit. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait 6 mois après? Il a reconstruit. Et encore mieux, encore plus joli, mais sur le sable. La maman afghane, dont on a parlé tout à l'heure, illettrée, elle n'a pas pu aller à l'école. Elle n'a peut-être pas une belle maison, entre guillemets, parce qu'elle vit dans un camp, mais on s'en fout de la maison. Elle a la seule fondation solide et durable qui existe, Christ. Tout homme qui vient à moi, à Christ, qui écoute mes paroles et qui les met en pratique, ressemble à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Bilan, les 5 questions qu'on s'est posées et les 5 réponses qu'on a trouvées. Christ est notre autorité. Christ est notre Seigneur. Christ est notre modèle, notre guide. Christ est notre sauveur. Christ est notre refuge. Pour terminer, cette cathédrale de Lübeck en Allemagne. Voilà, pas grand-chose de particulier, il y a des cathédrales qui sont bien plus jolies. Par contre, il y a une inscription au pied de la cathédrale. Je vous ai mis la traduction, enfin je vous ai mis en anglais, et je vais vous traduire en live, parce qu'elle m'a beaucoup marqué. C'est un résumé de tout ce qu'on a dit. Donc c'est, on ne sait pas qui a écrit ça, et heureusement, sinon il aurait pris sans doute la grosse tête, mais on ne sait pas qui a écrit. Donc c'est quelqu'un qui parle, enfin c'est Dieu et Christ qui parlent aux hommes. Vous m'appelez votre maître, mais vous ne m'obéissez pas. Vous m'appelez la lumière, mais vous ne me voyez pas. Vous m'appelez le chemin étroit, mais vous ne marchez pas sur ce chemin étroit. Vous m'appelez la vie, mais vous ne me désirez pas. Vous m'appelez sage, mais vous ne me suivez pas. Vous m'appelez juste, équitable, mais vous ne m'aimez pas. Vous m'appelez éternel, mais vous ne me cherchez pas. Vous m'appelez compatissant, plein de grâce, plein d'amour, mais vous ne me faites pas confiance. Vous m'appelez puissant, grand, fort, digne, mais vous ne me servez pas. Vous m'appelez majestueux, mais vous ne m'honorez pas. Vous m'appelez juste, mais vous ne me craignez pas. Si je vous condamne, vous ne pourrez pas me le reprocher.